Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et notre rendez-vous hebdomadaire avec Jean-Pierre Foulty, évidemment. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors c'est Beethoven dont on fêtera cette année, on le rappelle, le 250e anniversaire de la naissance, qui est le point de départ de nos chroniques. La première lui était entièrement consacrée, la deuxième l'était à ses prédécesseurs. On suit la logique pour la troisième ?
En toute logique, à ses héritiers.
Eh ben très bien.
C'est-à-dire ces musiciens allemands du 19e et du 20e siècle que Beethoven a marqués, pour le moins. Car Beethoven, nous l'avons dit, c'est un monstre sacré de la musique européenne qui a fait passer celle-ci du classicisme au romantisme.
Et il a fait des petits, alors ses successeurs?
Ce sont d'abord ces romantiques allemands qui doivent beaucoup à leur aîné. Mais la statue du commandeur était si imposante, si sacralisée, qu'il a bien fallu que les Mendelssohn, Schumann, Weber, Brahms, Wagner, pour ne parler que des Allemands, que ces artistes, eux aussi très talentueux, tuent en quelque sorte leur père spirituel pour trouver leur musique propre. Plusieurs d'entre eux ont voulu reprendre, transposer certaines œuvres du maître. Schumann en particulier, dans les années 1830, compose des variations pour piano à partir de la 7e symphonie. C'est certainement Johannes Brahms que l'on considère comme le successeur de Beethoven, même s'il a toujours récusé cette filiation. Comme lui, il est allemand et comme lui, il va faire l'essentiel de sa carrière dans l'incontournable Vienne. Brahms est un vrai musicien romantique, comme l'est son couple d'amis Clara et Robert Schumann, Clara étant considérée comme une des plus grandes pianistes de son époque. Brahms, lui-même pianiste, a composé pour cet instrument, mais on le connaît aussi pour ses quatuors et surtout pour ses musiques d'orchestre, des symphonies et ses danses hongroises, dont je vous propose un petit aperçu. On arrive à Wagner.
Wagner, donc, héritier de Beethoven ?
Wagner est en tout cas à part dans la musique allemande du milieu et de la seconde moitié du 19e siècle. Ses opéras ou drames lyriques, on va citer Tristan et Isolde, depuis sa gigantesque tétralogie faite de 4 opéras dont La Valkyrie, Le Crépuscule des Dieux, pour une durée totale de plus de 15 heures. N'ont pas d'équivalent dans la musique de Beethoven, qui lui avait peu composé pour l'opéra. Pourtant, Wagner admirait Beethoven, dont il a réalisé par exemple une réduction pour piano de la 9e symphonie. Mais avec Wagner se pose une problématique nouvelle, celle du lien entre culture, en l'occurrence ici la musique, entre culture et idéologie. Et l'idéologie en question, c'est celle des nazis à partir des années 1930.
Est-ce que ça veut dire Wagner égale nazi ?
Non, Richard Wagner est mort en 1883 et Hitler naîtra 6 ans plus tard. On pouvait au pire accuser Wagner de partager l'antisémitisme très généralisé de cette époque. Ce n'est pas seulement pour cette raison que les nazis l'ont, disons, récupéré, mais parce qu'ils trouvaient dans sa musique le caractère germanique, martial et viril dont il se réclamait. Je citerai ici une boutade du très spirituel et juif Woody Allen, qui, dans son film « Meurtre mystérieux à Manhattan » en 1993, fait dire à l'un de ses personnages à la sortie d'un opéra new-yorkais « Chaque fois que j'entends du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne ».
Dit Woody Allen dans le texte.
Tenez, une preuve de la vigueur de la musique wagnérienne, cette chevauchée des Valkyries, souvent utilisée au cinéma, dont nous entendons les élans guerriers.
Musique ô combien emblématique.
Sous les nazis, Wagner est un héros national. Son opéra « Les maîtres chanteurs de Nuremberg » est devenu l'opéra culte du national-socialisme et la maison de Wagner à Bayreuth, son temple. A l'inverse, la musique de Wagner est toujours interdite en Israël aujourd'hui, du moins en public. Mmh. les nazis qui n'en étaient pas cela près avaient aussi récupéré Beethoven et sa 9e symphonie, jouée par exemple à l'ouverture des fameux Jeux Olympiques de 1936. Mais certains musiciens allemands offriront bel et bien, eux, leur collaboration à l'État nazi ou auront, pour le moins, une attitude ambiguë.
Soyons transparents, est-ce qu'on a quelques noms ?
Le compositeur Karl Orff, dont on connaît aujourd'hui beaucoup les Carmina Burana, il n'a jamais appartenu au parti, mais il a accepté des commandes du régime. Deux chefs d'orchestre du prestigieux Orchestre Philharmonique de Berlin, dont nous parlerons la prochaine fois, ont eu des liens étroits avec ce même régime. Furtwängler, d'abord, Wilhelm Furtwängler, déjà très célèbre dans les années 30, qui se défendait toutefois de partager leur idéologie antisémite. Et Herbert von Karajan, lui, qui deviendra un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle, a été, dans sa jeunesse, membre du parti nazi. En tout cas, aucun d'entre eux n'a pris la décision de fuir cette Allemagne hitlérienne, comme ont choisi, ou ont été contraints de le faire, plusieurs de leurs compatriotes, comme Kurt Weill, juif et compositeur de l'opéra de Katsu, ou Paul Hindemith, qualifié par les nazis d'artiste dégénéré. Et après cette période troublée, de nouveaux compositeurs allemands marqueront la création musicale européenne du XXe siècle, et dans des formes beaucoup plus audacieuses, comme Karlheinz Stockhausen et sa musique électroacoustique. On est bien loin de Beethoven, quoique...
C'est l'évolution musicale. Bon, et nous, la semaine prochaine, pour notre 4e rendez-vous déjà.
Déjà, et nous nous demanderons si les Allemands sont toujours ce peuple musicien que l'on présente souvent ainsi.
Eh bien, la réponse sera la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, une très belle semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges-Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.